autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Sophie Joubert.
Bonjour et bienvenue à tous. Je vis parce que j'agis, a écrit Élisée Reclus. Géographe libertaire né en 1830 et mort en 1905, grand voyageur, communard, féministe et végétarien, il fut le chantre d'une mondialisation égalitaire et de la libre association des individus. Après des années de purgatoire éditorial et scientifique liées à son engagement politique, Élisée Reclus est aujourd'hui lue hors des cercles militants au point de devenir un classique. Comment lire son œuvre aujourd'hui et en particulier sa monumentale trilogie La Terre, Nouvelle Géographie Universelle et L'Homme et la Terre? Quel a été l'engagement de Reclus pendant la Commune de Paris? Quelle était sa pensée politique? Était-il un précurseur de l'écologie? Autour de la question « Pourquoi Élisée Reclus ?», la réalisation est signée Cécile Bonici. Bonjour Christophe Brun.
Bonjour.
Vous êtes historien de la géographie, enseignant en histoire-géographie au lycée de Cachan, et vous avez présenté la récente édition des grands textes d'Élisée Reclus, publiée chez Flammarion dans la collection Chants classiques. Alors c'est le moment de parler d'Élisée Reclus, puisque c'est le 18 mars 1871 qu'a commencé la Commune de Paris, à laquelle il a participé.
Oui, un événement fondamental dans son existence. C'était un véritable tournant sur le plan biographique, parce qu'il a été banni pendant 10 ans, c'était sa condamnation finale, et puis également sur le plan intellectuel, parce que ça l'a conduit à radicaliser ses positions sur la pensée sociale.
Mais est-ce que le communard a un peu éclipsé le géographe ?
Le communard a éclipsé le géographe au moment de sa condamnation et les quelques années suivantes, et très vite le géographe a repris le dessus grâce à la Nouvelle Géographie Universelle qui a commencé à être publiée par Hachette en 1875, et très rapidement il est devenu un géographe célèbre, reconnu, y compris par des élites sociales plutôt conservatrices.
Alors ce livre, Les grands textes d'Élisée Reclus, même si vous commencez l'introduction en disant qu'il n'y a pas de grands textes d'Élisée Reclus, montre à quel point l'œuvre est riche, diverse et qu'elle est aussi écrite dans une magnifique langue. Je voudrais vous faire entendre un extrait que vous connaissez déjà, hein, extrait d'un texte très célèbre pour les reclusiens, du sentiment de la nature dans les sociétés modernes, paru dans la Revue des Deux Mondes en 1866. Et c'est un enregistrement de 1922 qu'on trouve sur le site de la Bibliothèque nationale de France.
La montagne, par Élisée Reclus. D'où vient cette joie profonde qu'on éprouve à gravir les hauts sommets ? D'abord, c'est une grande volupté physique de respirer un air frais et vif qui n'est point vicié par les impures émanations des plaines. L'on se sent comme renouvelé en goûtant cette atmosphère de vie. À mesure qu'on s'élève, l'air devient plus léger. On l'aspire à plus longs traits pour s'emplir les poumons. La poitrine se gonfle, les muscles se tendent, la gaieté entre dans l'âme. Le piéton qui gravit une montagne est devenu maître de soi-même et responsable de sa propre vie.
Un mot de réaction, Christophe Brun, sur cet extrait. On ne sait pas qui est le lecteur, un comédien vraisemblablement.
Premier commentaire, c'est sur le style. Élisée Reclus écrit des phrases longues, qu'on a du mal à couper d'ailleurs quand on fait une anthologie. Et ces phrases longues donnent un souffle à son propos qui est très important pour emporter le lecteur. Il faut convaincre le lecteur, le séduire, y compris du point de vue stylistique. Le deuxième commentaire, c'est que ce marcheur qui fait face à la montagne, il ne domine pas la nature, il est au milieu d'une nature qui l'englobe, et en fait son expérience revient, ainsi qu'il est dit, à se rendre maître de soi-même. Et c'est très important pour Élisée Reclus de se rendre maître de soi-même et non pas de se rendre maître ni de la nature ni des autres.
Alors, je faisais référence tout à l'heure à l'introduction de cet ouvrage, Les grands textes d'Élisée Reclus. Vous la commencez par une phrase très percutante, une citation un peu étrange pour un ouvrage savant. Citation tirée d'Il était une fois la Révolution de Sergio Leone. Il n'y a pas de grands textes de Reclus, mais des longs ou des courts, comme le sont les mèches des explosifs.
Oui, dans Il était une fois la Révolution, le spécialiste des explosifs est un révolutionnaire irlandais qui a dû s'exiler en Amérique latine. Et Élisée Reclus a connu l'exil, lui aussi, pour des motifs révolutionnaires. Et mon parti pris dans cette introduction, c'est que tous les textes d'Élisée Reclus ont un objectif social, un objectif politique, qui consiste essentiellement à éclairer l'homme sur sa condition et à le rendre plus conscient, et de cette manière à l'aider à combattre des conditions sociales qui lui sont faites et qui sont très souvent iniques.
Alors, cet ouvrage est constitué de thématiques, hein, ce n'est pas un ouvrage chronologique. Alors, on va commencer par parler d'Élisée Reclus, grand voyageur. Il a beaucoup sillonné l'Europe, l'Amérique. Alors, premier voyage marquant, c'est en Irlande, alors qu'il a 22 ans. Puis, il part à la Nouvelle-Orléans en 1853. Écoutez cette lettre qu'il écrit à sa sœur Noémie.
Dans quelques jours même, je vais courir les hôtels et tous les bordels de la Nouvelle-Orléans pour y trouver un professeur qui consente à endosser le carcan et à manger des piastres à ma place. J'ai mes raisons pour filer. Ces raisons-là sont folles, cela va sans dire. Et c'est justement pour cela que je les aime, car elles sont bien à moi. D'abord, je suis là de manger et de boire, de dormir dans un lit, et de frapper sur un gousset rempli, voire de regarder l'heure sur une montre authentique. J'ai besoin quelque peu de crever de faim. Cela vaut mieux que de voler les nègres qui ont gagné par la sueur et le sang l'argent que je mets dans la poche. De répercussion en répercussion, c'est bien moi qui tiens le fouet, et cela ne m'agrée que fort peu. « Que ferais-je là-bas » demandes-tu toujours, chère et sage Noémie. « Que le Dieu, inventé jadis par Voltaire, me garde de le savoir. »
Alors, il y a plusieurs choses intéressantes dans cette lettre. C'est d'une part les liens qu'il entretient avec sa famille. C'est quelque chose, la famille Reclus, famille de 17 enfants, dont 13 seulement survivront. Et puis, il y a ce voyage en Amérique, lors duquel il va découvrir l'esclavage. Il va être précepteur pour un planteur esclavagiste. Et puis, lui-même, 4 ans plus tard, il va essayer de devenir planteur en Nouvelle-Grenade, c'est-à-dire en Colombie.
Oui, la lettre ici est une lettre de transition. En fait, il annonce qu'il quitte son statut de précepteur dans cette famille esclavagiste. Ça a duré quand même 1953, 54, 55, hein, donc 3 ans, c'était long, pour partir en Colombie et donc devenir planteur. Et il est amusant de penser qu'il a vécu effectivement du travail d'esclave, puisqu'il était rétribué par son employeur dans cette plantation à partir de ce travail d'esclave. Et en fait, s'il part, c'est parce qu'il en a assez de cette condition, justement, et également de l'immobilité. Reclus est quelqu'un qui est toujours en mouvement, et il a besoin de reprendre des risques, de se confronter à de nouveaux paysages, de nouvelles conditions physiques, naturelles, et de faire quelque chose par lui-même et non plus d'être au service de quelqu'un.
Un mot, Christophe Brun, sur les liens d'Élisée Reclus avec sa famille nombreuse. Donc, il est fils de pasteur, sa mère va ouvrir une école, et puis il y a son frère Élie, l'autre lui-même, comme il l'appelle.
Oui, cette famille donc a une très grande importance. Les liens ne se sont jamais dénoués ou relâchés entre les membres de la famille, même en fonction de l'éloignement ou des options politiques différentes des uns et des autres. Ici, Élisée Reclus est en Amérique, mais il garde des liens extrêmement soutenus avec donc cette famille, il raconte ce qui lui arrive, il demande à son frère aîné de venir d'ailleurs, avec sa belle-sœur, donc la fameuse Noémie. Donc il y a toujours ce désir, malgré l'éloignement, le mouvement, les voyages, de former une communauté soudée. Et ce sont effectivement les parents qui ont formé cette communauté soudée avec tous leurs enfants, et en instillant un état d'esprit communautaire extrêmement vivace, dont Élisée Reclus est un représentant, bien qu'il n'ait pas vécu avec ses parents pendant quasiment ces 7 premières années, jusqu'à l'âge de 8 ans. Et ses parents sont, d'une certaine manière, un modèle pour lui, un modèle de rigueur, un modèle de droiture morale, même s'il n'épouse pas leur idéologie,
voilà,
religieuse calviniste.
Il aurait pu devenir pasteur et puis il a bifurqué.
Donc il refuse le calvinisme parce que la figure paternelle aussi est une figure extrêmement sévère, qui fait peur, qui est un peu rebutante, parce que le père est un mystique et qui traite ses enfants et son épouse en mystique, c'est-à-dire que tout est tourné vers la religion. C'est un milieu assez dur et en même temps avec une chaleur humaine et un souci du développement individuel de chacun des enfants et un respect du choix qu'ils font. C'est ça qui est assez étonnant, c'est ce contraste entre une très grande rigueur donc religieuse pour le père et en même temps cette liberté qu'il laisse à ses enfants de suivre leur propre trajectoire et par exemple de ne pas devenir pasteur. C'est le cas d'Élie, le frère aîné, qui deviendra ethnographe et publiciste, et le cas d'Élisée qui devient géographe.
Voilà, et le chemin propre d'Élisée Reclus, c'est donc de voyager et de rédiger des ouvrages. On en parle juste après Indizara, Any Story sur RFI.
Autour de la question, Sophie Joubert.
The night was cold and I was told to keep the silence and go. Look at the seaside, the trouble is away and the wind blows outside. Before you break any soul, before you try. Any story can be mine, any heart can
Ciara, Any Story sur RFI. Christophe Brun, comment Élisée Reclus commence-t-il à faire de la géographie? Il a fait une partie de ses études en Allemagne auprès de Karl Ritter, grand géographe. Et puis à un moment, il va commencer à écrire des guides touristiques.
Alors, Karl Ritter, c'est une rencontre décisive parce qu'il est en rapport avec un géographe moderne et non pas un géographe nomenclaturiste, oui, comme il y avait jusque-là, donc quelqu'un qui essaye de penser l'unité de la Terre et de ses phénomènes. Mais Ritter n'est fréquenté que pendant 5 mois d'un semestre d'études en 1851 et ensuite Élisée part à Londres, en Irlande et puis en Amérique. Sa première activité géographique, je dirais, c'est le voyage en soi et puis le fait de parcourir des paysages extrêmement différents entre l'Europe, la Louisiane, la Colombie. Donc il y a une pratique géographique par le voyage, qui est tout à fait courante à l'époque. Et puis ensuite, quand il rentre à Paris en 1857, il faut bien qu'il trouve du travail. Il a quand même 27 ans, il n'a aucun emploi, il n'a pas de formation supérieure sérieuse. Et donc, à ce moment-là, il essaye de se faire reconnaître comme géographe en herbe. Il se fait recruter par la Société de Géographie de Paris parce qu'il a des connaissances pratiques de l'Amérique et connaissances linguistiques qui lui permettent, par exemple, de faire des critiques d'ouvrages, des choses comme ça, en provenance des États-Unis ou d'Amérique du Sud, ou d'Espagne ou d'Angleterre. Et puis, son emploi principal, c'est donc d'être recruté par Hachette pour faire des guides touristiques, là encore, avec ce qu'il connaît déjà, c'est-à-dire la marche, le fait de savoir repérer des espaces très vite et le goût de les commenter, bien entendu. Donc cet apprentissage par le guide touristique, c'est important dans la mesure où c'est quelque chose de très concret, de très matériel, qui aiguise son regard et lui donne envie évidemment d'en savoir plus, de même que ses lecteurs ont envie d'en savoir plus lorsqu'ils voyagent. Ces guides touristiques sont contemporains du développement du chemin de fer et donc de la croissance formidable du nombre de touristes en France et en Europe.
Il va faire aussi le récit de son séjour à la Nouvelle-Grenade et puis il va commencer la rédaction de son grand œuvre avec le premier tome, La Terre, premier tome de cette trilogie. Écoutez une lecture par le comédien Carlo Brandt, c'est un extrait du film de Nicolas Éprendre, Élisée Reclus, La Passion du Monde.
Le livre qui paraît aujourd'hui, je l'ai commencé il y a bientôt 15 années, non dans le silence du cabinet mais dans la libre nature. C'était en Irlande, au sommet d'un tertre qui commande les rapides du Shannon, ces îlots tremblants sous la pression des eaux et le noir des filets d'arbres dans lequel le fleuve s'engouffre et disparaît après un brusque détour. C'est là, dans ce site gracieux, que naquit en moi l'idée de raconter les phénomènes de la Terre. Et sans tarder, je crayonnais le plan de mon ouvrage. Les rayons obliques d'un soleil d'automne doraient ses premières pages et faisait trembloter sur elle l'ombre bleuâtre d'un arbuste agité.
Est-ce que c'est cet ouvrage qui va lui ouvrir la reconnaissance du milieu intellectuel, Christophe Brun ?
Tout à fait, c'est un ouvrage magistral, un traité en 2 volumes, publié en décembre 1867 et décembre 1868, daté de 1868 et 69 par Hachette, parce que la politique d'Hachette, c'est de vendre les beaux ouvrages et gros ouvrages aux étrennes en fin d'année, et de dater de l'année suivante, parce que le public achète ses volumes l'année suivante. Et alors cet ouvrage très volumineux est une synthèse de multiples lectures en diverses langues, donc ça c'est la grande capacité linguistique d'Élisée Reclus qui lui permet de faire ce travail, et il est reconnu dans le milieu français, dans le milieu anglais aussi, puisqu'il y aura très rapidement une traduction entre 1871 et 1873. Et cette reconnaissance institutionnelle s'avérera très importante en 1871, au moment de la Commune justement, parce que les universitaires britanniques vont s'investir dans la cause Reclus quand il sera condamné à la déportation.
Darwin notamment. Hein.
Et notamment, bon, le plus connu est Darwin, oui. C'est pas celui qui a le plus mené des pétitions, mais il y a participé, il a donné donc ce grand nom effectivement pour demander une commutation de peine d'Élisée Reclus en 1871-72.
Mais est-ce que quand il rédige ce premier tome, il a déjà en tête la trilogie ?
Non, il n'a pas en tête la trilogie. Il dit dans une lettre à un géographe allemand, Oscar Peschel, il dit que ce sera sans doute la grande œuvre de sa vie, enfin quelque chose comme ça. Et donc il n'a pas encore en tête ce projet qui mûrira plus tard dans les années 1870-71. Mais je pense que le fait d'avoir achevé ce travail qui est considérable, hein, ce sont 2 très gros volumes, illustrés de cartes, avec donc extrêmement détaillés, qui passent en revue la géographie physique mais aussi un peu humaine du globe. Ce succès lui a donné plus d'ambition en fait dans son travail de géographe et l'a conduit à la Nouvelle Géographie Universelle, et donc du coup les 2 volumes de La Terre ont été conçus comme une sorte de préambule par la suite à ce monument qui a été encyclopédique, qui a été la Nouvelle Géographie Universelle.
Alors il faut voir comment Reclus s'inscrit dans l'approche de la géographie de son temps. Avant lui, il y a déjà eu une géographie universelle rédigée par Malte Brun. Après lui, il y en aura 2 autres, celle de Vidal de la Blache, qu'il a un peu éclipsée à un certain moment. Et puis au XXe siècle, celle de Roger Brunet.
Oui, le principe des livres de géographie, c'est de se périmer relativement vite. Voilà. Parce que, pour deux raisons, d'une part, les conditions sociales et politiques évoluent, et d'autre part, les connaissances en géographie physique évoluent également. Et le XIXe siècle est un boom de toutes sortes de sciences physiques, biologiques. Et donc, ce que veut faire Élisée Reclus avec la nouvelle géographie universelle, c'est mettre à jour celle de Malte Brun, mais aller bien au-delà, avec un état d'esprit beaucoup plus systématique, beaucoup plus ample, et en prenant mieux en considération la vie des peuples. Ça, c'est plutôt nouveau. Et quant aux deux suivantes, au XXe siècle, les deux suivantes françaises, elles auront aussi à cœur, chacune dans son style, de remettre à jour des données, de refournir un document encyclopédique qui permette de comprendre la totalité du monde.
Vous citez dans cette présentation des grands textes de Reclus l'écrivain Joël Corniaud qui remarque que le projet géographique de Reclus est une réplique à l'entreprise des écrivains de la Bible, donc la Genèse, l'Ancien Testament, les Évangiles.
Élisée Reclus n'a pas été pasteur, mais il a gardé un côté prêcheur. Il veut convaincre le public, il veut convaincre ses lecteurs qu'ils peuvent mieux connaître leurs conditions de vie et ainsi progresser vers le bonheur. Donc là, c'est l'idée que le bonheur, il faut pas attendre l'au-delà pour l'avoir, mais qu'on peut l'organiser sur Terre, dans l'en-deçà, donc comme on disait dans le vocabulaire religieux. Et donc tous ces projets éditoriaux participent à cette vaste entreprise. Et alors, ce qui est étonnant, effectivement, on peut faire des rapprochements du fait de l'ampleur de son œuvre, qui est aussi étonnante que celle de la Bible, et puis aussi du type de récit. C'est-à-dire que il y a une sorte de genèse qui est la genèse de l'œuvre et également une sorte de genèse de la Terre, enfin sa description surtout physique, ce sont les deux volumes de la Terre 1867-68. La nouvelle géographie universelle, c'est un passage en revue de la vie des peuples et de leur milieu géographique, mais en racontant donc toutes les luttes, y compris historiquement, parce que Élisée Reclus utilise sans arrêt l'histoire, qui ont dessiné leur trajectoire. Et dans la Bible, on a tous dans l'Ancien Testament tous ces récits des tribulations du peuple juif, de ces massacres continuels, de ces déportations qu'on retrouve dans la vie des hommes réels dans cette nouvelle géographie universelle. Et le dernier pan de la trilogie, L'homme et la terre 1905-1908, je l'ai fait correspondre au Nouveau Testament parce que le Nouveau Testament pour les chrétiens, c'est l'annonce de la dernière révélation, de la dernière bonne nouvelle. Et dans L'homme et la terre, Élisée Reclus met en forme de manière beaucoup plus synthétique une pensée, suit l'histoire du monde, de la préhistoire jusqu'au début du XXe siècle, et essaye de délivrer un message idéologique.
Alors nous allons voir comment la pensée politique d'Élisée Reclus se construit et en quoi son engagement dans la Commune de Paris a été décisif. Christophe Brun, vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes, juste après les informations.
Autour de la question.
Sophie Joubert.
Autour de la question, pourquoi Élisée Reclus, avec Christophe Brun, historien de la géographie et enseignant au lycée de Cachan, responsable de l'édition des grands textes d'Élisée Reclus, paru chez Flammarion dans la collection Chants classiques. On va voir comment se construit la pensée politique d'Élisée Reclus. Je vous propose une autre lecture d'un texte par le comédien Carlo Brandt, toujours extrait du film de Nicolas Eprendre, Élisée Reclus, la passion du monde.
Chaque génération qui périt est suivie par une génération différente. Les peuples se mêlent aux peuples comme les ruisseaux aux ruisseaux, les rivières aux rivières. Tôt ou tard, ils ne formeront plus qu'une seule nation, de même que toutes les eaux d'un même bassin finissent par se confondre en un seul fleuve. Les peuples devenus intelligents apprendront certainement à s'associer en une fédération libre. L'humanité, jusqu'ici divisée en courants distincts, ne sera plus qu'un seul et même fleuve, et réunis dans un même flot, nous descendrons ensemble vers la grande mer où toutes les vies vont se perdre et se renouveler.
L'humanité ne sera plus qu'un seul et même fleuve. Christophe Brun, un commentaire sur cet extrait qu'on vient d'entendre?
Élisée Reclus écrit un peu de la même manière sa géographie physique et sa géographie humaine, si je puis employer cette dernière expression. D'autre part, il y a une vision unitaire de la Terre et des hommes qu'elle porte. Et ce texte d'Élisée Reclus s'explique aussi par le contexte de première mondialisation, comme disent les historiens aujourd'hui, qui donne un grand espoir à un adepte de la fraternité universelle, un grand espoir en cette union future de tous les peuples, par-delà les différences constatées jusqu'alors, c'est-à-dire jusqu'en cette fin du XIXe siècle.
Mais comment il la conçoit précisément, cette union, cette fraternité?
Ah, alors ça, c'est tout le problème de la pensée anarchiste. Est-ce qu'on peut donner un programme et dire, voilà, ça va se passer de cette manière-là? La réponse est non, parce que, justement, Élisée Reclus demande une libre fédération. Donc, on ne sait pas de quelle manière ça va se produire. Lui, il fait fond sur une prise de conscience de plus en plus importante chez les populations du monde, justement du caractère unitaire. Donc, aujourd'hui, nous en sommes là, avec le problème du réchauffement climatique, par exemple. Et également, donc, une meilleure connaissance du fonctionnement du système Terre permet d'aller dans cette direction. Et également une lutte contre les iniquités sociales, mais il le dit lui-même, hein, ça prend du temps, c'est à la suite d'une longue évolution qu'il peut y avoir cette révolution dans l'organisation de l'humanité du point de vue politique et social.
Le rôle des femmes est également très important dans la pensée d'Élisée Reclus.
Le rôle des femmes est d'autant plus important, alors pour ce que sont les femmes en elles-mêmes, mais aussi parce qu'elles sont mères et qu'elles élèvent les enfants, ça c'est le côté, c'est au 19e siècle ça se passe de cette manière, et Élisée Reclus est restée traditionnaliste de ce point de vue. Et les femmes élèvent les enfants, et Élisée Reclus dit à plusieurs reprises, notamment à la fin de son existence, qu'il met tout son espoir dans les enfants, que les générations futures seront meilleures que les générations précédentes, et que c'est par l'éducation que se formera une humanité de meilleure aloi.
Mais est-ce qu'on peut dire qu'il était vraiment féministe? Parce que c'est compliqué de voir comment lui a appliqué ses principes égalitaires dans sa propre vie. Alors, il était contre le mariage, il a eu beaucoup de compagnes, mais il a plutôt vécu en union libre. Mais en même temps, vous le soulignez dans l'ouvrage, ses compagnes n'étaient pas vraiment son égal. Alors, au début, c'était plutôt des femmes qui s'occupaient du foyer, et puis au fur et à mesure qu'il vieillissait, c'était des bourgeoises qui lui apportaient le confort matériel.
Oui, le confort matériel, notamment pour sa troisième compagne, Hermance Gonini. Une cousine plutôt éloignée, là. C'était un compagnonnage de raison. Hein. Chacun avait des motifs de s'associer. Alors là, c'est un exemple d'association, d'ailleurs. Hein. Les anarchistes disent que le modèle de l'association, c'est plutôt l'amour, justement, les relations amoureuses. C'est pour ça que c'est difficile à prévoir. Et donc, avec ses épouses, il y avait effectivement des rôles qui étaient relativement bien distribués. Mais lui-même est très présent dans l'éducation de ses deux filles. Pour preuve, on en a un journal qui a été tenu par sa première épouse, Clarisse Briand, donc la mère de ses deux enfants, ses deux filles. Et Élisée Reclus, donc elle raconte ce que c'est un journal de l'aînée, hein, de Magali, tenu entre 1860 et 64. Et Clarisse Briand raconte les mots d'enfance, ce que fait cette petite fille. Élisée Reclus intervient dans le journal. Et il fait ses propres commentaires de temps en temps, c'est-à-dire effectivement, les rôles ne sont pas égaux, mais il est très proche de l'éducation de ses enfants également. Alors lui, évidemment, c'est le travail à l'extérieur et les femmes sont tournées vers le domestique, répartition des rôles classique. Je dirais que le féminisme d'Élisée Reclus ressemble à celui de Pierre Mendès-France. Je crois que c'est la seconde épouse de Pierre Mendès-France qui disait « Pierre Mendès-France, il est féministe, il est pour qu'il y ait des lois qui soient votées en faveur des femmes, mais pas chez lui. »
Voilà.
Et donc Élisée Reclus, sans exagérer, c'est un peu la même chose. Lui-même participe à une société de revendication pour les droits des femmes, aux côtés de sa belle-sœur Noémie Reclus, en 1868, qui réclame une égalité des droits.
Il a quand même prononcé un très beau discours pour le non-mariage de ses filles,
l'union libre,
donc qui lui a été vertement reproché.
Alors ces deux filles se sont unies librement, en même temps, le même jour, avec deux amis du neveu Paul Reclus. Tous trois ont fait l'école centrale des arts et manufactures, et donc ça a été une décision acceptée par toutes les familles. Hein, c'était ça qui était difficile à obtenir, la famille des hommes, hein, des époux entre guillemets, des compagnons. Tout ça a été accepté, il y a une cérémonie familiale uniquement, et il y a eu un récit qui a été imprimé, pour la famille au départ seulement, des discours qui avaient été prononcés pendant cette cérémonie. Cette union libre double a été très vite connue, et elle a fait scandale, effectivement, dans la presse française notamment, parce que on considérait que Élisée Reclus, qui était un bourgeois, un savant important, était devenu fou et prostituait ses filles, voilà, et les livrait à une vie tout à fait désordonnée et à se laisser abandonner par leur mari, enfin leur compagnon sans droit ensuite sur leurs enfants, par exemple, des choses comme ça. Donc il y avait des problèmes pratiques, et le point de vue d'Élisée Reclus, c'est que toutes ces lois, on s'en fiche, c'est la volonté des personnes qui est à prendre en compte essentiellement, et même seulement ici. Dans ce cas-là, il y a un très beau texte aussi où il dit finalement les relations entre les êtres, c'est à la minute, à la seconde ou toute une vie, mais bien sûr il y a des qualités différentes dans les rapports entre les êtres humains, et donc toutes les unions libres ne se valent pas.
Alors on va voir comment se forge la pensée politique d'Élisée Reclus et comment il va se radicaliser au fil des années. Écoutez le géographe Philippe Pelletier qui témoigne dans le film Élisée Reclus, la passion du monde de Nicolas Éprandt.
Élisée avec son frère aîné Élie fréquente le mouvement républicain de gauche après le coup d'État du 2 décembre. Quand ils rentrent à nouveau en France, à Paris, ils vont fréquenter les Saint-Simoniens, des Proudhoniens. Élisée va adhérer à la section des Batignolles de l'Association internationale des travailleurs, l'année même de sa création, en 1864. Il se situe dans une mouvance, on va dire, fédéraliste, de pensée libre. Il rencontre la même année Michel Bakounine. Ils ne sont pas tout à fait encore sur les mêmes positions, mais on peut dire que c'est la Commune de Paris et la participation à la Commune de Paris qui va radicaliser Élisée Reclus, en ce sens où il va dire que finalement, toute collaboration entre le capital et le travail est impossible. Et à partir de ce moment-là, donc il va rejoindre à nouveau Bakounine et participer avec d'autres, dont la fameuse fédération jurassienne, à la construction des organisations anarchistes qui vont prendre la suite du courant anti-autoritaire de cette première internationale.
Et quelle est la position d'Élisée Reclus par rapport au fait de prendre les armes, Christophe Brun ? Faut-il ou non prendre les armes ? Parce qu'à la Commune, il a été arrêté les armes à la main, même s'il ne s'en est pas servi.
Oui, il faut prendre les armes parce qu'il faut défendre le plus faible. Il a eu des paroles à la fin du 19e siècle, donc 25 ans après, en parlant des bouddhistes, en disant « bon, on fait pas de mal, mais si jamais on est attaqué, qu'est-ce qu'on fait ? Si on voit un enfant qui est attaqué, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben moi, je le défends. » Et donc là, il fallait défendre une organisation qu'il considérait comme plus juste que l'organisation précédente, donc la Commune de Paris, par rapport au gouvernement français de la République provisoire, et qu'il fallait défendre donc cette organisation qui était meilleure, y compris par les armes. Mais en même temps, il signe une affiche qui est placardée dans Paris et qui est ensuite reproduite par le journal Le Cri du Peuple, qui demande la conciliation. Donc il prend les armes faute de mieux parce qu'il y est poussé, il ne veut pas les utiliser et il y fait un appel à la conciliation. Il est encore entre deux justement. Et c'est l'échec de la Commune, l'écrasement de la Commune de Paris dans le sang qui provoque justement cette radicalisation parce que finalement le gouvernement de l'autre côté n'a rien entendu des appels qui pouvaient être lancés par les uns ou par les autres. La Commune de Paris s'est terminée parce que le gouvernement officiel a donné l'assaut à la ville. Et on peut même se demander, en interprétation historique, si ce qui a été fait le 18 mars et qui a provoqué la Commune n'a pas été aussi une petite provocation gouvernementale pour détruire un foyer potentiellement révolutionnaire et socialiste dans Paris.
Comment Élisée Reclus échappe-t-il à la déportation en Nouvelle-Calédonie ? Parce que donc il est arrêté, il est emprisonné, il va rester 10 mois en prison.
8 mois. 8 mois. 8 mois de prison en prison, essentiellement en Bretagne, et il est condamné par un tribunal militaire à une peine de déportation libre en Nouvelle-Calédonie. Il y a deux types de déportation en Nouvelle-Calédonie. Déportation libre, on est sur l'île, mais on est libre de ses faits et gestes, et on peut être en forteresse, enfermé donc sur l'île de la Nouvelle-Calédonie, et ce sera la condamnation d'Élie Reclus, le frère aîné, à l'année suivante, à la fin de 1872. Élie Reclus est plus lourdement condamné parce qu'il a eu des responsabilités sous la Commune. Il a été pendant 3 semaines directeur de la Bibliothèque nationale de France. Élisée, lui, a été juste pris les armes à la main. Il est condamné donc à cette déportation et il y a ensuite tout un mouvement chez les notabilités savantes parisiennes, chez Hachette et en Grande-Bretagne, pour faire une pétition auprès d'Adolphe Thiers, donc le chef de l'exécutif français, de manière à non pas le faire libérer, bien sûr, mais à commuer sa peine en bannissement de 10 ans, ce que Adolphe Thiers va faire finalement.
Alors, on va voir comment et de quoi est constitué l'anarchisme d'Élisée Reclus et quel est son lien entre cet anarchisme et son travail de géographe. Écoutez le géographe Yves Lacoste et Jean Chesneau, ils s'exprimaient tous les deux sur France Culture en 1982.
On connaissait dans certains milieux sensibles aux problèmes politiques, en particulier les anarchistes Reclus en tant qu'ami de Bakounine ou de Kropotkine. Mais on avait laissé de côté complètement le fait qu'il était géographe. Et je crois que, pour Reclus, le fait qu'il soit géographe et le fait qu'il soit anarchiste, c'est indissociable. Et c'est un anarchiste qui pose les problèmes de la démarche de son mouvement en fonction d'une analyse géographique. Et par exemple, Reclus dit qu'il veut défendre sa dignité de géographe bien qu'anarchiste et d'anarchiste bien que géographe.
Moi, ce qui m'a surtout intéressé chez Reclus, c'est la conjonction entre l'idéologie libertaire et le sens de l'espace. Je laisse de côté le mot de géographie en tant qu'étiquette universitaire, mais la réalité de l'espace planétaire, c'est quelque chose d'extrêmement fort chez lui. L'idée d'un champ libre, d'un ancrage ouvert. Et d'abord, c'était là une des bases de la communauté d'intérêt entre Jules Verne et Reclus. En tout cas, pour le milieu des études jules verniennes, le nom de Reclus est fondamental. Et la connotation libertaire cachée chez Jules Verne tournait autour de cette idée de la Terre comme espace ouvert.
Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse des liens entre anarchisme et géographie, Christophe Brun ?
Oui, je suis d'accord. Élisée Reclus ne cesse de parler de la terre libre dans ses écrits géographiques et l'idée de bénéficier d'une mobilité maximale sur cette terre, de pouvoir traverser des frontières, de ne pas être sans arrêt arrêté par une bureaucratie, c'est très important pour lui, oui.
En réalité, il n'a publié qu'un seul texte vraiment anarchiste, c'est l'évolution, la révolution et l'idéal anarchique.
Alors si on parle de texte, la réponse est non, il a publié de multiples textes anarchistes, par contre il n'a publié qu'un ouvrage anarchiste,
voilà.
Donc
oui.
C'est à ça que vous faites allusion. Oui. Mais Élisée Reclus a une activité très importante de publiciste dans la presse anarchiste, il fournit des articles, il contribue aussi par ses deniers à faire vivre un certain nombre de journaux anarchistes, donc ses écrits en fait sont assez nombreux, mais un seul livre qui a évolué d'ailleurs au départ. Comme souvent chez Élisée Reclus, Élisée Reclus rechigne à la théorisation. Et donc c'est une conférence en 1880 qui ensuite donne une trace écrite qui est de plus en plus remaniée. Il y a une version un peu plus importante en 1891 et la version finale de 97 où il essaye de réunir finalement les principaux linéaments de sa pensée dans le domaine.
Mais à partir de quelle année il se dit vraiment anarchiste ?
Alors on peut le repérer comme anarchiste déclaré en 1876. Il est en Suisse à ce moment-là. C'est le moment aussi où il verse une cotisation à la Fédération jurassienne, une fédération anarchiste du canton de Vaud, qui est composée essentiellement de petits artisans. Ça, c'est très important, le milieu social d'origine. Ça explique justement cette idée de l'union libre, etc. Ce sont des petits producteurs, le vivier sociologique. Le Corbusier, par exemple, vient de ce milieu-là. Hein. Et Élisée Reclus donc, donne ce soutien à partir de 1876. Et autre date importante, en 1880, il se déclare anarchiste communiste. C'est-à-dire, c'est une tendance qui considère, contre l'anarchisme individuel, que l'homme fait partie d'une communauté et qu'en fait, le fait de compter sur sa volonté libre d'individu, c'est pour s'associer immanquablement avec d'autres dans les meilleures conditions possibles, avec une mise en commun de biens. Il n'y a pas de propriété privée, mais cette mise en commun de biens est compatible avec, justement, cette liberté d'association.
Et on parlait tout à l'heure du recours aux armes, à la violence. Il ne va pas forcément cautionner ce qu'on a appelé les bombistes, la vague d'attentats qui ont eu lieu dans les années 1890.
Alors, il ne cautionne pas les bombistes pour deux raisons. La première raison, c'est le fait de tuer n'importe qui par des bombes qui explosent à l'aveugle. Et ce n'importe qui, le public, doit être éduqué et non pas assailli. Et d'autre part, il considère que tous ces attentats font le jeu de la police et des institutions, ce qui s'avérera, hein, et que donc c'est absolument contre-productif. En revanche, ça ne l'empêche pas d'admirer certaines figures de bombistes, et notamment celle de Ravachol, hein, dans sa correspondance. Il dit que c'est une haute figure morale. Et d'ailleurs, Ravachol a été admiré pendant son procès par des gens qui n'étaient absolument pas anarchistes.
Élisée Reclus est précurseur dans de nombreux domaines, parmi lesquels le rapport de l'homme à son environnement. On ne prononçait pas encore le mot d'écologie à l'époque, mais en tout cas, ça peut y ressembler. On en parle juste après. Camille, allez, allez sur RFI.
Allez, 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 à chaque allez, 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 à chaque coup de
Allez, Camille sur RFI. Autour de la question pourquoi Élisée Reclus, je voudrais vous faire écouter une lecture du livre Histoire d'un ruisseau, toujours par Carlo Brandt.
L'histoire d'un ruisseau, même de celui qui naît, se perd dans la mousse et l'histoire de l'infini. Ces gouttelettes qui scintillent ont traversé le granit, le calcaire et l'argile. Elles ont été neige sur la froide montagne, molécules de vapeur dans la nuée, blanche écume sur la crête des flots. Le soleil dans sa course journalière les a fait resplendir des reflets les plus éclatants. La pâle lumière de la lune les a vaguement irisés. La foudre en fait de l'hydrogène et de l'oxygène, puis d'un nouveau choc a fait ruisseler en eau ces éléments primitifs. Tous les agents de l'atmosphère et de l'espace ont travaillé de concert à modifier incessamment l'aspect et la position de la gouttelette imperceptible. Elle aussi est un monde, comme les astres énormes qui roulent dans les cieux, et son orbite se développe de cycle en cycle par un mouvement sans repos.
Voilà, on entend bien ici la très grande qualité littéraire des textes d'Élisée Reclus. Histoire d'un ruisseau, c'est avec Histoire d'une montagne, l'un des deux livres de ce qu'on appelle la géopoétique de Reclus.
Oui, c'était un qualificatif qui lui est accolé a posteriori. Histoire d'un ruisseau, 1869. Histoire d'une montagne, dernière version, 1880. Deux textes géopoétiques qui sont des textes publiés dans la bibliothèque d'éducation de Hetzel, donc qui visent à éduquer. Et c'est pour ça que dans l'extrait, on a entendu que c'était un texte poétique qui décrivait certains phénomènes et qui introduisait quelques éléments de physique pour expliquer comment le ruisseau faisait son travail vis-à-vis de la roche.
Alors, Élisée Reclus était-il un écologiste avant l'heure ? Écoutez le point de vue de l'écrivain Joël Cornuau, spécialiste de Reclus, interviewé sur France Culture en 2004.
Pour Élisée Reclus, la géographie qui n'appartient à personne en particulier, mais qui appartient à tous, doit se vivre près du ruisseau si on est à la campagne, dans les montagnes si on vit près des montagnes, mais aussi en ville. On doit, par exemple, si on veut apprendre la géographie, une fois qu'on a pris un contact sensible, on doit mener les enfants au bord du caniveau, par exemple. Lui-même, au sens strict et très précis du mot, n'emploie pas le terme écologie, bien on sûr. Ne le trouve pas ouais. Sous sa plume, mais comment contourner ce mot, au moins au sens ordinaire où nous l'entendons, ça n'est pas possible à partir du moment où, dans un long texte qui en fait est un compte-rendu d'un grand écologiste ouais. méconnu qui s'appelle Marsh, Élisée Reclus avertit ses lecteurs des dangers de la déforestation, des dangers de la chasse intensive, des dangers de la pêche intensive, mmh. du fait que les villes et sociétés industrielles sont en train de modifier le climat, et ceci avec une information qui semble provenir d'hier matin et non pas d'il y a un siècle. Donc, cette entrée-là existe tout à fait dans l'œuvre d'Élisée Reclus, le plus surprenant étant comment cela a-t-il pu échapper oui. aussi longtemps.
Commentaire Christophe Brun.
Oh, il y aurait beaucoup de commentaires à faire. Je voudrais relativiser un peu ce que dit Joël Cornuau. C'est vrai que tous ces textes de Reclus, on peut dire qu'il est un écologiste, même si le terme ne convient pas tout à fait, j'expliquerai peut-être tout à l'heure. Tous ces textes, donc il faut les resituer dans le contexte de l'époque, et des historiens ont travaillé sur la question depuis, et en fait, par exemple, la modification des climats, il y a d'autres auteurs qui en parlent. La grande différence avec aujourd'hui, c'est que les modifications de climat sont donc reconnues au 19e siècle, mais localement, parce qu'elles ne se produisent, ces modifications, que localement. Et aujourd'hui, c'est global. On a changé d'échelle. On a changé d'échelle, d'ailleurs, dans une perspective où la Terre forme une unité. Donc lui, il insiste sur ces phénomènes à son époque aussi parce qu'il est confronté à l'industrialisation. Il admire l'industrialisation, il admire la technique, il considère que l'homme doit bien sûr perfectionner ses outils, les utiliser pour un mieux-être, mais également savoir, justement parce que cet homme est plus puissant, savoir préserver la nature, pas complètement puisqu'il faut l'utiliser, mais la nature c'est aussi un réservoir de beauté. Et Joël Cornuau insistait sur le rapport sensible à la nature. Élisée Reclus a insisté, disait qu'il fallait découvrir la nature, que lire des livres, ça ne suffisait absolument pas, il fallait parcourir la Terre par soi-même. Et quand Élisée Reclus a dirigé un institut géographique à l'université la nouvelle Université libre de Bruxelles à partir de 1898, il demandait à ses étudiants de faire des excursions, de faire des travaux, des choses absolument concrètes, y compris sur le terrain. Élisée Reclus a une phrase que j'aime beaucoup, qui est « le sens de la beauté précède celui du classement et de l'ordre », c'est-à-dire que expérience sensible avant de théoriser quoi que ce soit.
Il a aussi dit, écrit « l'homme et la nature prenant conscience d'elles-mêmes dans l'homme et la terre ».
Oui, c'est dire que les forces cosmiques ou les forces telluriques dépassent largement l'homme, qui est tout petit, hein, Élisée Reclus ne cesse d'insister sur cette petitesse des sociétés, petitesse de l'homme dans le vaste univers. Et par ailleurs, cet homme est doué de conscience et comprend, donc issu de la nature, lui-même constitué d'une nature intérieure, comme on pourrait dire, c'est-à-dire sa biologie, étant immergé dans une nature extérieure, ça c'est une expression d'Élisée Reclus, grâce à cette intelligence, à l'amas des connaissances, il arrive à mieux comprendre comment tout ceci fonctionne, et ça doit l'aider, pensait Élisée Reclus, à le rendre plus libre par la compréhension des lois de la nature.
Et sur l'emploi du mot écologie, vous n'étiez pas tout à fait d'accord?
Oui, alors ça c'est une controverse, notamment parmi les reclusiens, parce que l'écologie c'est un mot qui est apparu dans les années 1880, inventé par le biologiste allemand Ernst Haeckel, que Reclus n'a jamais employé, alors qu'il écrivait à cette époque-là, alors que Reclus a employé un autre terme, qui est celui de mésologie, qui vient du milieu médical français, qu'il a donc repris. Je rappelle qu'Élisée Reclus avait un frère, un petit frère qui était très grand médecin et qui lui le tenait au courant aussi de ce qui se fait dans le domaine médical, mais par ailleurs, Élisée avait ses propres connexions avec ce milieu médical français. Donc il a repris ce terme de mésologie, science des milieux, ou connaissance des milieux. Alors la différence peut-être qu'on peut faire entre la mésologie et l'écologie, c'est que la mésologie insiste beaucoup plus sur les liens entre la nature et l'homme et sur les liens réciproques entre la nature et l'homme, alors que l'écologie tend plutôt à mettre l'environnement, comme on dit, à distance par rapport à l'homme. Élisée Reclus est plutôt partisan justement d'une union intime entre la nature et l'homme, avec un homme qui serait suffisamment bien élevé, hein, au sens de la courtoisie, pour respecter un certain nombre d'éléments de cette nature.
Et ce terme de mésologie est repris notamment par Augustin Berck.
Oui,
voilà, et Augustin Berck. C'est parti des héritiers peut-être de
oui.
Reclus.
Je ne sais pas si Augustin Berck fait partie des héritiers de Reclus, mais le concept de mésologie a été travaillé au Japon. Augustin Berck est un géographe du Japon, et il a été travaillé notamment dans le milieu anarchiste japonais, qui a eu des liens avec le milieu anarchiste français, et spécifiquement avec la famille Reclus, puisqu'il y a eu des liens entre le neveu Paul Reclus, neveu d'Élisée, anarchiste, dans la première moitié du XXe siècle, et un certain nombre de Japonais. Donc il y a eu ce lien France-Japon, et la mésologie donc a été reprise dans ce milieu japonais.
Et alors concernant le Japon, vous mentionnez une chose très curieuse. Donc Élisée Reclus meurt en 1905 en Belgique. Il est enterré dans la fosse commune, de même que son frère et sa belle-sœur. Et ses textes, alors plus tard, hein, dans les années 20, vont partir au Japon, et une grande partie des livres va être détruite dans le tremblement de terre de Tokyo en 1923.
Oui, la bibliothèque provient de la nouvelle Université libre de Bruxelles, qui a fermé ses portes, enfin refusionné avec l'Université libre en 1919. Donc c'est cette bibliothèque que personne n'en voulait. Donc c'est le neveu Paul Reclus qui avait dirigé l'institut après la mort d'Élisée qui a récupéré. Et puis donc il s'est mis d'accord avec ces Japonais pour leur expédier la bibliothèque, de manière à créer un embryon de bibliothèque géographique moderne au Japon à partir de ce fonds. Donc tout cela a été entreposé, et en 1923 donc a été ruiné par le raz-de-marée et les incendies qui ont suivi dans le port de Tokyo. Et je pense que Élisée Reclus aurait été très satisfait de ce destin, lui-même étant fasciné par les phénomènes naturels catastrophiques. Il a beaucoup étudié les volcans notamment. Et donc le fait que des ouvrages qui sont pour lui destinés à être périssables, hein, ces œuvres encyclopédiques, pour lui c'est à ce moment-là que ça a une utilité, mais ça doit être absolument dépassé. Donc que cette bibliothèque disparaisse, ça n'est pas gênant. Le plus important, c'est que des êtres humains continuent à vivre et à étudier ces phénomènes naturels et à les expliquer.
Les textes d'Élisée Reclus ne sont pas du tout dépassés, puisqu'ils sont réédités chez Flammarion dans l'excellente collection Chants classiques. Merci beaucoup Christophe Brun. Je renvoie aussi à une chronologie familiale détaillée que vous avez écrite et qu'on trouve sur le site raforum.info.
Merci.
Un grand merci à Cécile Bonici.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Et la semaine prochaine, nous parlerons du physicien Ettore Majorana et de sa mystérieuse disparition avec Étienne Klein. À vendredi prochain, et lundi, vous retrouvez bien sûr Caroline Lachowski.